Europe 1.
Écoutez le monde changer. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Le gouvernement aurait pu imiter les pays voisins, nous reconfiner comme au printemps, les Français y étaient prêts, mais il a préféré temporiser, avancer le couvre-feu à 18h et durcir l'accueil aux frontières. Il va donc nous falloir apprendre à vivre avec les variants, anglais c'est certain, peut-être même sud-africains et brésiliens. La professeure Samira Fafi-Kremer dirige l'Institut de virologie du CHU de Strasbourg, elle est en direct avec nous sur Europe 1 ce matin et elle est incollable sur nos nouveaux ennemis invisibles. Je recevrai ensuite Bernard Pivot. Dans son nouveau livre, il nous montre que la vieillesse, c'est une aventure et c'est même une aventure moderne. Chouette, que des bonnes nouvelles. Professeur Samira Fafi-Kremer, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'Institut de virologie du CHU de Strasbourg. Alors, si vous le voulez bien, parlons variants. J'ai l'impression qu'on commence à connaître un peu mieux le variant anglais, mais il y a également le variant sud-africain, le variant brésilien. Alors, qu'ont-ils de commun ensemble, tous les trois, et qu'ont-ils de différent ?
Alors, il y a effectivement le variant anglais qui est apparu en septembre en Angleterre et qui maintenant se propage, il est pratiquement majoritaire. Il y a le variant sud-africain qui, lui, a émergé de manière indépendante du variant anglais. Et lui, il est apparu au début octobre environ en Afrique du Sud. Et puis, le variant brésilien qui a été identifié récemment chez quatre voyageurs du Brésil qui ont été testés pendant un dépistage de routine à l'aéroport de Tokyo. Alors, la particularité de ces trois variants, c'est qu'ils ont accumulé plusieurs mutations dans leur génome, c'est-à-dire le matériel génétique du virus, et notamment au niveau de la protéine S. Donc, cette protéine S qui est une protéine située à la surface du virus et qui permet au virus d'infecter les cellules, mais qui est surtout la cible principale des anticorps qui vont nous protéger contre l'infection. Alors, ces trois variants sont apparus de manière indépendante, mais ils ont quand même des mutations en commun et des mutations supplémentaires, notamment dans le variant sud-africain. Lui, il en a, je pense, si mes souvenirs sont bons, il en a au moins deux supplémentaires sur la protéine S, alors que le variant brésilien, lui, au lieu des sept mutations observées dans le variant anglais et sud-africain, il y en a 12 sur la protéine S. Et c'est là où on commence un petit peu à s'inquiéter.
On s'inquiète pourquoi ? Parce qu'il est plus contagieux. Hein ?
Voilà. Alors, la première chose, c'est que ces variants, on le sait, pour le variant anglais, qu'il est très contagieux, qui se propage beaucoup plus facilement. Comme je vous l'ai dit, maintenant, depuis son émergence en septembre, il est devenu majoritaire en Angleterre. Mais on sait aussi que sur les 24 pays qui ont vu une augmentation brutale de l'incidence, il y en a au moins 10 qui ont le variant anglais qui est en circulation.
Alors, voilà. Pourquoi on s'inquiète ? S'il est plus contagieux, ils vont devenir majoritaires, donc il y aura plus de contamination, donc plus de gens à l'hôpital, donc les hôpitaux risquent d'être débordés, donc risque d'y avoir plus de morts. C'est évidemment ce qui nous inquiète par là. Le fait qu'on dit que les jeunes seraient plus facilement contaminés parce que ces variants s'attaquent particulièrement à eux ou tout simplement parce qu'ils sont plus contagieux.
Alors, ces données qui a une surreprésentation de variants chez les jeunes, je pense qu'il n'est plus d'actualité puisqu'on l'observe un peu maintenant
toutes les couches de la population.
Voilà, tranches d'âge. Et cette première donnée chez les jeunes, je pense qu'elle a été observée au moment où le virus a émergé. En Angleterre, il y avait le pays était confiné, mais les écoles sont restées ouvertes. Et donc, c'était de ce fait le seul endroit où la transmission pouvait avoir lieu. Donc c'est pour ça qu'on a observé une surestimation d'environ 25% chez les jeunes. Mais maintenant, toutes les données convergent pour dire qu'il n'y a pas de différence entre les différents groupes d'âge.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que le virus du Covid s'est adapté ? Au fond, il s'est adapté à nous et c'est en s'adaptant à nous qu'il a développé de nouvelles souches qui nous attaquent davantage ?
Oui, ça c'est une question très intéressante, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on est étonné d'avoir tant d'accumulation de mutations, parce qu'il faut savoir que le virus évolue de manière naturelle, mais son horloge moléculaire dit qu'il évolue à peu près de 2 mutations par mois, chaque virus. Et là, on voit qu'une forte accumulation de mutations. Et de plus en plus de données, dont une qui est apparue hier, une étude, qui indique que les multiples mutations seraient apparues sous la pression d'une sélection immunitaire. Et alors, pour expliquer un peu mieux, c'est qu'on pense que l'une des hypothèses probables de l'émergence de ces variants est qu'elle viendrait de personnes immunodéprimées ou des personnes qui ont une réponse immunitaire fragile. Donc ces personnes qui sont infectées, on sait que du fait de leur fragilité, ils vont voir le virus qui va se répliquer de manière prolongée, jusqu'à 2 mois, voire plus. Et cette réplication du virus en présence d'une réponse immunitaire faible va favoriser l'apparition de mutations, et notamment au niveau des régions qui sont impliquées dans l'infection ou dans la réponse anticorps.
Il se trouve, comme par hasard, qu'il y a un virus anglais, donc qui est né en Europe, un virus brésilien né en Amérique du Sud, et puis il y a le virus sud-africain qui est donc né en Afrique. Il n'y a pas de variant né en Asie. Est-ce que ça veut dire donc qu'il n'y a de variant que dans les pays où le virus circule encore, et que là où il a été plus ou moins éradiqué, en Corée du Sud par exemple, il ne peut pas y avoir de variant?
Alors forcément, plus il y a de circulation, de réplication du virus, et plus il va y avoir une émergence de variants. Et c'est pour cela qu'on insiste, et que le Conseil scientifique aussi insiste, qu'il y ait un respect rigoureux des mesures barrières et aussi une accélération de la vaccination pour pouvoir arrêter et puis limiter la propagation du virus. On sait qu'en France, on est à 1%, probablement un peu plus, mais au moins pour limiter ou retarder la propagation rapide du virus, pour nous éviter encore une autre vague de propagation, de réplication virale. Et puis pour ne pas saturer nos hôpitaux et protéger notre système de soins.
Professeur Samira Fafi-Kramer, on fait une pause, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous continuons de faire connaissance avec les variants du Covid, grâce au professeur Samira Fafi-Kramer, qui dirige l'Institut de virologie du CHU de Strasbourg. Si je vous ai bien compris, professeur, tant que le virus circule, il s'adapte, il mute et il revient avec des variants plus contagieux, plus contaminants. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne peut pas vivre avec le virus? On a souvent employé cette expression, il va falloir s'habituer à vivre avec le virus. Mais en fait, on ne peut pas, puisqu'il s'adapte. À chaque fois, il revient plus fort. Il faut donc l'éradiquer.
Alors, l'éradiquer, je ne pense pas qu'on puisse le faire. On pourrait s'adapter au virus et lui s'adapter à nous, sachant que, effectivement, le virus va muter, mais les mutations ne sont pas toujours favorables au virus. Il y a des mutations qui lui sont favorables et qui lui permettent de mieux infecter ou d'échapper à la réponse immunitaire. Et puis, il y a des mutations qui peuvent être délétères. Je pense que c'est l'évolution naturelle du virus. Et comme ce virus-là, on sait qu'il va se répliquer de manière asymptomatique chez certains, etc., il faut juste éviter qu'il se réplique chez des personnes dont la réponse immunitaire est fragile. Donc, en fait, il faut limiter sa circulation. Et ça permet de limiter aussi son évolution. Tant qu'il rencontre des personnes qui sont fragiles de niveau immunitaire et où il peut se répliquer de manière facile, il peut se transmettre facilement. Je pense que cela, c'est ce qui va favoriser sa propagation.
D'accord. En ce qui concerne les vaccins, évidemment, on est très inquiet. On se dit, est-ce que les vaccins sont toujours aussi efficaces sur ces variants? Alors, qu'en sait-on exactement aujourd'hui?
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, là je vais rester très prudente. En effet, les études qui ont été réalisées jusqu'à maintenant ont évalué l'impact de chaque mutation prise à part et non pas sur le virus entier avec l'ensemble des mutations. Donc, je vais parler de résultats préliminaires. Donc, les résultats préliminaires de ces études, qui ont investigué des mutations qui sont situées sur cette protéine S, dont j'ai parlé tout à l'heure, et des mutations à la fois observées sur le variant anglais ou le variant sud-africain, eh bien, ces études ont montré qu'il n'y avait pas d'impact significatif sur la réponse immunitaire et sur la réponse induite par le vaccin de manière générale. Il faut donc attendre les investigations sur le virus entier pour en savoir plus. Néanmoins, juste pour finir sur une note positive, il faut savoir que aussi bien la vaccination que l'infection naturelle induisent une réponse immunitaire robuste avec des anticorps qui vont cibler plusieurs parties de la protéine S. C'est-à-dire que même si l'anticorps ne peut pas se fixer parce qu'il y a une mutation, et puis il y a d'autres anticorps qui peuvent se fixer et nous protéger. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a la réponse cellulaire T, qui est l'autre arme de notre réponse immunitaire, qui joue un rôle majeur pour contrer l'infection virale et qui permet aussi de nous protéger.
Alors, pour savoir si ces variants circulent dans la population française, une des méthodes, c'est le séquençage. Alors, il paraît que les Français sont pas de très très bons élèves en séquençage. On séquencerait peu le virus, et puis quand on le séquence, on est plutôt lent et rétif à publier nos données. Alors, est-ce que c'est le cas? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce séquençage du virus, dans lequel les Anglais, eux, seraient beaucoup plus généreux que nous?
Alors effectivement, la culture de séquençage comme ça de virus émergents, c'est pas dans la culture française. D'abord, on n'a pas les moyens, on n'a pas les mêmes plateformes qu'ont les Anglais. Il faut des outils très sophistiqués de bioinformatique. Il y a quelques-unes, il y a des plateformes en France, mais si vous voulez, c'est pas encore utilisé en routine. Alors c'est quoi un séquençage? On a testé un prélèvement qui est positif au SARS-CoV-2. Donc on va prendre le génome de ce virus et on va essayer de déterminer chaque nucléotide s'il y a des mutations par une technique qui est comme assez lente, qu'il faut au moins 2 à 3 jours pour séquencer. Et puis, il faut savoir que le génome du SARS-CoV-2, il est très lent, il fait 30 000 paires de bases, donc là aussi, il faut des équipements spécifiques, il faut un personnel qualifié, et il faut des moyens. Ça coûte très cher, le séquençage. Donc, en France, si vous voulez, on a les moyens de séquencer, on le fait déjà pour d'autres virus, comme le VIH et les hépatites, mais ce qu'on n'a pas, c'est de pouvoir répondre de manière rapide et efficace à ce genre de situation. Mais là, si on regarde le dernier avis du conseil scientifique, il a effectivement prôné pour la mise en place de ce réseau qui existe déjà finalement, de laboratoires de virologie autour des CNR, donc les centres nationaux de référence, pour pouvoir mutualiser les efforts aussi bien entre les laboratoires de virologie hospitaliers et les unités de recherche pour séquencer publier nos séquences, etc. Donc ça commence petit à petit, mais ça demande du temps. Et est-ce que les laboratoires de virologie sont aussi en attente de moyens, parce que c'est une activité supplémentaire qui, comme je vous ai dit, nécessite un personnel qualifié supplémentaire. Donc on espère avoir les moyens adéquats pour pouvoir répondre, parce que tout le monde est volontaire pour le faire, évidemment.
Et est-ce que ça veut dire que c'est le seul moyen de savoir dans quelle proportion le variant, notamment le variant anglais, est présent sur notre territoire? Il n'y a que le séquençage ou il y aurait d'autres moyens?
Alors, concernant le variant anglais, effectivement, il y a un autre moyen de le détecter. C'est cette PCR, c'est une PCR Thermo Fisher, en fait, qui a eu la chance de pouvoir détecter le variant anglais. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'amplifier 3 cibles du génome du virus. Et parmi les 3 cibles, il y a la protéine S avec une délétion. Et c'est une partie qui a disparu du génome qui caractérise le variant anglais. Donc quand on fait un test pour voir si le patient est positif ou négatif, eh bien en même temps on peut détecter la présence ou non du variant anglais. Après évidemment il faut faire un séquençage pour confirmer la présence du variant anglais, mais c'est effectivement déjà une méthode assez rapide et facile pour screener. Et d'ailleurs, c'est cette méthode qui a été utilisée lors de l'enquête flash du 7 et 8 janvier, qui ont été réalisées dans toute la France pour évaluer la circulation du variant anglais chez nous.
Dernière question, professeur Samira Fafi-Kremer, il nous reste très peu de temps. Par rapport à ce qu'a connu l'Angleterre, nous, s'il doit nous arriver la même chose, c'est dans combien de temps?
Alors, sincèrement, je n'en ai aucune idée. En fait, ça dépend. On espère. Là, en fait, notre situation est paradoxale en France. On voit qu'on est mieux placé par rapport aux autres, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est à un niveau élevé et fragile. Assez stable mais fragile, donc il faut vraiment continuer de se protéger et protéger les plus fragiles. Et là on va voir l'impact de ce qui s'est passé au Nouvel An pour voir est-ce qu'il y a eu une forte augmentation de propagation du virus, mais sincèrement je ne peux pas vous dire plus.
Merci.
Sur ce qui va se passer après.
Merci professeur Samira Fafi-Kremer. On se retrouve dans un instant avec Bernard Pivot.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Bernard Pivot.
Bonjour.
Je suis ravi de vous voir, toujours aussi pétillant. Vous venez de publier « Mais la vie continue » chez Albin Michel.
Précédé de trois points.
Précédé de trois petits points, vous avez raison. À première vue, c'est un livre sur la vieillesse, mais vous nous montrez que la vieillesse, c'est une aventure au fond. Et je dirais même que c'est une aventure moderne, parce que nos aïeux la vivaient plus rarement et dans des conditions quand même plus difficiles qu'aujourd'hui.
Oui, c'est une aventure, oui, je crois. Le mot me paraît juste. C'est une aventure qui est périlleuse, mais qui a du parfum, qui a du sorte de panache, etc. Et d'abord, être vieux, c'est déjà prouvé qu'on a surmonté beaucoup d'obstacles, hein, parce qu'il faut y arriver. Hein, et malheureusement, il y en a beaucoup qui nous ont lâchés en cours de route, hein, des amis, des parents, et qui étaient plus jeunes, donc ils n'avaient pas la chance d'avoir une santé enfin, qui leur permettait d'atteindre un âge certain. Donc c'est une aventure, mais avec une aventure qui est partagée par des centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, on le voit maintenant, ce matin, ils ont lancé la vaccination pour les plus de 85 ans. Je ne sais pas combien de millions.
Plus de 75. Commence lundi.
J'ai remarqué d'ailleurs qu'ils n'ont jamais donné les statistiques de mort des plus de 80 ans. Et ils donnaient toujours 65 ans, 75 ans, mais pas 80, 85 ans. Et je pense que c'est terrible. C'est pour ça qu'ils ne la donnaient pas.
Oui, c'est là où, effectivement, il y a eu le plus de victimes du Covid, c'est dans cette tranche d'âge. Ce qu'on voit bien en vous lisant, Bernard Pivot, c'est à quel point le corps dans lequel on se retrouve, à votre âge, est un autre corps. Ça n'est pas le corps auquel on était habitué. Hein. C'est vraiment... C'est pour ça qu'il devient envahissant, ce corps. C'est pour ça que vous n'arrêtez pas d'en parler.
Mais c'est une obsession. C'est une véritable obsession. À la moindre courbature, à la moindre le moindre bruit suspect dans le corps, immédiatement on est aux aguets, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, alors que quand on a 20, 30, 40 ans, une petite douleur ici ou là, c'est pas grave. Tandis que là on est à l'affût. La moindre insomnie, la moindre bruit bizarre dans les oreilles, on se dit mais qu'est-ce qui se passe. Donc on est en alerte sans arrêt.
Mais au fond, c'est parce que ce corps qu'on habite, on ne le connaît pas.
Non, on le connaît pas, mais on le connaît de moins en moins. Et en plus de ça, on sait très bien qu'il va nous trahir. On le sait.
Ouais.
La trahison est fatale, puisqu'on va terminer par la mort. Donc, la trahison, on n'y pense pas. Ça arrive, malheureusement, quand on a 30, 40 ans, ça arrive d'avoir des maladies graves. Mais quand on arrive à 80 ans, justement, le jour de mes 80 ans, je me suis dit, bon, j'entre dans le grand âge, ça m'a fichu un coup. Et je me suis dit, maintenant, mon corps va me trahir. Il m'avait déjà trahi un petit peu, quand même. Hein. De temps en temps, il m'avait rappelé à l'ordre. Mais là, je me suis dit, cette fois, la trahison risque d'être fatale.
Et c'est pour ça qu'on le surveille, et c'est pour ça qu'on en parle tout le temps. On parle de sa santé en permanence.
Et c'est pour ça que la question « Comment vas-tu » ou « Comment allez-vous » ce n'est plus une question de politesse, c'est une question médicale. Comment vas-tu ? Vous allez énumérer toutes vos douleurs, toutes les paralysies de vos systèmes nerveux, musculaires, auditifs, etc. Vous allez les énumérer. Ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure. L'autre ne se lasse pas d'entendre toutes ces choses-là. Et à la fin, la personne dit « Voilà, à part ça, ça va. Et vous ?»
Oui, fatalement, ce sont des conversations qui se répètent. Et dans votre livre, vous leur consacrez beaucoup de chapitres. Et l'intellect, alors ? L'intellect, ça va ?
Alors, l'intellect, ça va. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le livre s'intéresse beaucoup au corps. Mais le corps, on n'y peut rien. On ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Si ce que j'appelle les quatre cavaliers de l'Apocalypse tombent dessus, c'est-à-dire ce que j'appelle les CI2A, c'est-à-dire le cancer, infarctus, AVC ou Alzheimer vous tombent dessus, vous n'y pouvez rien. Tandis que l'esprit, on peut continuer de le gouverner, on peut continuer d'avoir une hygiène de l'esprit, on peut continuer de l'entretenir, de le rendre agréable, etc. Ça, là, il y a une véritable... C'est ce que j'essaye de montrer dans le livre.
Il y a la perte de mémoire, quand même, tout de même.
Il y a la perte de mémoire.
Et surtout des noms. Hein,
les noms,
vous en parlez beaucoup.
Et les titres. Les titres de films. Ah, c'est terrible, absolument. Et alors, vous allez vous rappeler un film que vous avez vu une seule fois il y a 50 ans, vous rappelez presque plan par plan, mais le film que vous avez vu il y a 2 mois et demi, qui vous a pourtant bien intéressé, vous n'en souvenez plus du tout, c'est même plus le sujet.
Mais vous savez, on sait pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vous souvenez mieux de votre classe de 19e que de ce que vous avez fait avant-hier ? C'est parce que vous avez passé 80 ans à vous en souvenir.
Oui,
et donc, ça s'est imprimé et ça ne partira jamais.
Oui. Enfin, tout ne s'est pas imprimé quand même.
Hein. Non.
Il y a des choix. Et c'est assez... Alors, l'esprit, non. Le problème, c'est qu'on a tendance à se confiner, d'ailleurs, on parle d'un terme qui est à la mode, à se confiner dans son corps. Et à se confiner aussi dans son esprit. Alors, se confiner dans son corps, ben oui. Non seulement on se confine dans son corps, mais on se confine dans son histoire et dans sa géographie. Alors, bon... On peut réagir, mais on ne peut pas grand-chose. Mais le confinement de l'esprit, là, il faut lutter contre. Il faut toujours se dire, non. Il faut continuer d'être curieux, de questionner.
Dans sa géographie, vous voulez dire qu'on hésite à partir en voyage, par exemple, parce qu'on ne connaît plus, on a peur d'être déphasé.
L'esprit d'aventure est un peu parti. Alors, encore que... On observe que ce qui n'existait pas, par exemple, dans mon enfance, où on voit des vieux partir en troupeau, dans des bateaux, dans des trains.
Pour les vacances.
Pour les vacances, non, mais puis même en dehors des vacances, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre les vacances pour partir dans un car qui va vous faire visiter Berlin ou Budapest. Donc, il y a quand même un peu plus de... On voyage davantage aujourd'hui... Les vieux voyagent davantage qu'il y a 40 ou 50 ans. Ils ne bougeaient pas beaucoup, pratiquement pas. Moi, je me rappelle mes parents, les vacances, oui, mais une fois qu'ils ont été à la retraite, pratiquement, ils ne bougeaient plus beaucoup.
Voilà. On fait une pause, on se retrouve juste après, Bernard Pivot.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Bernard Pivot qui publie « Mais la vie continue » avec 3 petits points devant. Ça vient de paraître chez Albin Michel. On en parle comme si c'était vous le personnage principal de ce livre, Bernard Pivot. Mais en fait, il y a un narrateur qui n'est pas vous. Il est d'ailleurs un peu plus jeune. Il a 82 ans, 3 ans de moins que vous. Et pourtant, il n'est pas écrit roman sur la couverture.
Non, parce que je trouve que ce n'est pas tout à fait un roman. Je dirais plutôt que c'est une chronique romanesque. C'est une chronique romanesque, je veux dire, parce qu'il y a des personnages que j'ai inventés, qui sont des amis, donc ils sont 8. Il y a une nonagénaire, 6 octogénaires et 1 septuagénaire. Mais en dehors de leur amitié, il ne se passe pas grand-chose. Simplement, ils sont eux aussi en alerte. Il n'aurait encore arrivé rien de grave. Ils peuvent jouir de leur retraite. Ils ont des retraites plutôt agréables. Et ils habitent tous Paris. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les jeunes octogénaires parisiens. Mais si vous habitez Lille ou Lyon, les jeunes, hein, jeunes octogénaires lillois ou lyonnais, etc.
Mais c'est quand même drôle cette histoire de roman, parce qu'il y a beaucoup de romans aujourd'hui qui n'en sont pas. Et à l'inverse, un livre comme le vôtre, qui pourrait se revendiquer comme tel, et ne le fait pas. Et c'est amusant. Vous avez dû lire beaucoup à l'Académie Goncourt, beaucoup de romans qui ne sont absolument pas des romans.
Non. Oui, mais je suis un peu respectueux du genre et je me suis dit, bon, on va pas mettre roman. En plus de ça, je suis pas vraiment un romancier et je préférais Voilà, mais je n'ai pas mis non plus chronique romanesque.
Non,
c'est un peu prétentieux.
Restons sur la vieillesse, puisque c'est véritablement elle qui est au centre de ce livre. On voit bien que vos personnages sont encore attentifs à la marche du monde.
Ah oui.
Et ça m'a fait penser à François Mauriac, dont j'ai relu récemment le bloc-notes. Il était septuagénaire à l'époque. Et il expliquait bien que n'ayant plus véritablement de vie personnelle, vu son grand âge, il s'intéressait d'autant plus à l'histoire. C'est votre cas également ?
Moi, j'ai toujours une vie personnelle. Franchement, j'essaye d'avoir une vie personnelle. Je pense que toutes les personnes âgées doivent conserver d'être attentifs à la famille.
Bon, je crois que c'était son cas aussi. Il avait des petits-enfants,
oui,
il avait
oui,
une femme.
Oui, bien sûr. Mauriac, les petits-enfants.
Ah oui, Wiesemski, grand dessinateur.
Il ne pas tellement s'en occuper, à mon avis.
Ah si
Il s'occupait plus de la politique que de ses petits-enfants. Enfin, bon.
Wies dit qu'il s'en occupait beaucoup.
Oui. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de vieux qui débranchent. Et qui n'écoutent plus, qui ne s'intéressent plus à la marche du monde, ou qui deviennent grognons, qui disent « Oh, ouais, la politique, c'est toujours la même chose, tous des cons, etc. » Donc, il y a une sorte de laisser-aller, de presque de dégoût de la vie. Et ça, il ne faut pas tomber là-dedans. Mais surtout pas, il faut au contraire rester attentif. Il faut rester les oreilles bien ouvertes. Et si elles ne marchent pas très bien, mettre un appareil auditif pour rester... Moi, je me rappelle mon grand-père paternel. C'était un rescapé de la guerre de 14. Et il avait été brûlé par les gaz. Il y avait la marque de rouge au front des gens qui ont été gazés. Et alors, c'est un personnage tout à fait étrange parce qu'il passait sa vie à la radio. Il écoutait la radio tout le temps, tout le temps. Et alors je lui disais, mais les nouvelles sont bonnes. Bien, non, c'est épouvantable. C'est absolument épouvantable. Ce monde est atroce. Alors évidemment, comme il était rescapé et qu'il était proche de la mort, il avait l'impression... Mais il écoutait tout le temps la radio. Il écoutait. Rien ne lui échappait de la vie du monde et de la France.
Mais c'est drôle pour quelqu'un qui avait connu deux guerres mondiales de penser que le monde qu'il connaissait à présent était toujours aussi horrible.
Oui,
Michel Serres, qui avait connu deux guerres mondiales aussi, lui disait qu'au contraire, il avait l'impression de chaque matin quand il se réveillait, qu'il se réveillait dans un monde en paix, que c'était miraculeux.
Ah oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Moi, c'est ce que je me dis aussi. Non seulement je me dis, je me lève dans un monde en paix, mais je me lève.
Oui.
C'est surtout ça. Parce que se lever le matin, c'est un privilège quand vous avez 85 ans. C'est ça qui est intéressant. Alors si en plus de ça, le monde est en paix, alors actuellement, il n'est pas tellement en paix, le monde avec le coronavirus.
Oui, là, c'est spécial.
Et puis vous avez une menace quand même directe sur les vieux, comme nous.
Ouais.
Donc là, il y a une petite menace. Mais se lever et se dire, je vis, je vais prendre mon petit déjeuner, j'ai rendez-vous avec mon pote, mon vieux pote, etc. Mais c'est le bonheur.
Quels sont les autres privilèges de la vieillesse que vous découvrez qui sont nouveaux là ? Parce que justement,
alors,
vous avez vos cheveux blancs et l'âge que vous avez.
Alors, les cheveux blancs, c'est une sorte de carte d'identité. Les rides, c'est une sorte de passeport. Ça impressionne quand même les gens. Alors, il y a des jeunes qui s'en foutent des vieux, mais quand même, quand vous entrez dans une rame de métro, il y a quand même des gens qui se lèvent, qui vous donnent leur place. Et c'est assez intéressant. Et alors, il y a beaucoup de vieux, d'ailleurs, qui sont un peu chiants. C'est-à-dire qu'ils sont pinailleurs, comme ça, arrogants, etc. Non, mais je suis vieux, j'ai droit à ceci et j'ai droit à cela. Hein. Alors, moi, je ne suis pas comme ça, évidemment, mais ça existe. Seulement, ils considèrent qu'ils ont des privilèges. Et c'est vrai qu'il y a des privilèges, d'ailleurs, qui ont été concédés par la loi, sur les transports, des choses comme ça. Mais vous avez, par exemple, des privilèges qui viennent justement de l'âge quand vous êtes en réunion. Immédiatement, on cherche d'abord votre avis à vous. Si vous applaudissez, on regarde si vous applaudissez les gens. Et puis, quand arrive le cocktail, on va vous chercher de quoi manger, de boire. On ira chercher votre manteau au vestiaire. Vous n'aurez pas besoin de vous déranger. Et on aidera un taxi pour vous. Donc, il y a quand même quelques avantages.
Et on vous avance votre chaise, comme on le faisait de femme.
Mais oui.
Autrefois.
Donc, une vie sociale qui, ma foi, n'est pas inintéressante quand on est vieux.
On se retrouve dans un instant, Bernard Pivot.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Bernard Pivot, 85 ans, il l'a dit, je peux bien le dire, hein, qui publie « Mais la vie continue » chez Albin Michel, un livre sur la vieillesse. On voit bien qu'il y a des vieillesses différentes, et d'ailleurs vous en parlez dans ce livre. Je repensais à Danielle Darrieux à votre âge, elle jouait tous les rôles dans « Oscar et la Dame Rose » d'Éric Emmanuel Schmitt à la Comédie des Champs-Élysées. Formidable, non ?
Ah oui, non, mais il y a des vieux exceptionnels. D'ailleurs, dans le livre, il y a une dame qui s'appelle Nona.
Qui est exceptionnelle,
qui est exceptionnelle et qui est la seule vraie du livre. La seule vraie. Elle existe. Je la connais bien. Et je l'ai même rajeunie parce qu'elle a 95 ans dans le livre et maintenant elle a 99 ans et demi. Et elle aime la vie. Elle aime la vie et je pense que si elle a une vie aussi longue, c'est parce qu'elle a toujours porté cet amour à la vie, au bonheur de s'habiller le matin, la coquetterie, se mettre du rouge à lèvres, aller faire les boutiques avec ses filles. Elle aime ça, elle lit énormément, elle lit je crois presque un livre par jour. C'est formidable.
Mais je me souviens du cinéaste, grand cinéaste, Louis Buñuel, qui disait « Je ne veux surtout pas devenir un vieillard prodige ». Il disait « Je déteste les enfants prodiges, je détesterais être un vieillard prodige ». Et je me demandais pourquoi il se faisait cette réflexion. Je me dis « Au contraire, ça doit être formidable ».
Bah oui, bah moi je trouve qu'il a tort.
Mais il n'est pas devenu un vieillard prodige.
Oui, il n'est pas devenu, mais enfin... Je sais pas, j'aimerais bien être un vieillard prodige.
Vous dites que l'un des intérêts de la vieillesse, de cette aventure, hein, c'est qu'on est de plus en plus soi-même. Au fond, nos qualités comme nos défauts sont renforcés.
Oui, ça s'accentue.
Et vous êtes de plus en plus quoi, alors ?
Alors, je suis de moins en moins, par exemple, impatient. J'ai toujours été, comme tous les journalistes d'ailleurs, on est impatient. Et j'essaye de me gouverner là-dessus, de me gendarmer. Quand je suis énervé parce que ça va passer vite, je me dis, Bernard, calme-toi. Tu n'es pas aux pièces. Donc j'essaie de m'en aller. Ce qui est vrai, c'est que par exemple, moi j'ai observé beaucoup, c'est que les prétentieux sont toujours un peu plus m'as-tu vu.
Encore à 85, plus. À 90 ans.
C'est incroyable. Les radins sont de plus en plus radins. Mais par exemple, les humanistes sont de plus en plus altruistes. Alors moi, j'essaye... Je crois que je suis plus généreux que je n'ai jamais été aussi généreux que maintenant. Voilà, je pense que c'est généreux. Et en même temps, je pense que je peux être plus irrité que je ne l'étais encore il y a encore 20 ans. Ça dépend. Voilà.
Est-ce qu'on prend plaisir au même livre ? Est-ce que au même genre de livre, j'entends ? Est-ce qu'on lit des romans à votre âge comme on en lisait avec le même plaisir qu'on en lisait quand on avait 20 ans ou 40 ans ? Je crois qu'à 20 ans, vous ne lisiez pas, vous, mais à 25 ou à 30 ans ?
Non, et ce que je trouve très, très intéressant, c'est de lire des romans dont les protagonistes ont 20 ou 30 ans.
Ah oui ?
Ah oui, je trouve ça formidable, surtout d'aujourd'hui, les 20 ou 30 ans d'aujourd'hui.
Ah, j'aurais pensé que ça devait être énervant.
Non.
Ça n'est pas le cas ?
Non, pas moi. Moi, ça ne m'énerve pas. En revanche... Les mémoires, les mémoires de gens de mon âge, ça m'énerve un peu.
Ah oui.
De temps en temps, j'ai envie de dire, attends, je connais ça par cœur, attends, oh, oh. Est-ce que lire les témoignages ou les romans des jeunes d'aujourd'hui, je trouve ça, ça... Ben oui, ça, c'est la curiosité pour ce qu'on ne connaît pas, tout simplement.
Bien sûr.
Je ne fréquente plus, à part mes petits-enfants, enfin, qui ne sont pas représentatifs de toute la société, fatalement, je m'intéresse donc à ces jeunes-là.
Est-ce qu'on fait un bilan ? Est-ce qu'on s'attarde sur les regrets qu'on a pu avoir, sur les remords aussi qu'on peut avoir ?
Oui. Ça, de temps en temps, on est saisi par effectivement la volonté de dresser un bilan, de se dire, là, je n'ai pas été quand même assez généreux. Là, j'ai pas accordé assez de temps à mes enfants. J'ai pas assez...
Vous vous dites pas, tiens, il y a tel écrivain, je l'ai raté.
Si, bien entendu. Même je disais à un confrère, c'était hier, je disais, j'ai commis une faute professionnelle. Je dis aujourd'hui que j'ai commis une faute professionnelle en ne faisant pas un tête-à-tête avec Romain Gary.
Ah oui, c'est dommage.
C'est incroyable. Ouais. Comment j'y ai pas pensé ? C'est insensé. Quand il est mort, je me suis dit,
Mais au fond, c'est pour ça qu'il avait créé le personnage d'Émile Ajar. Ben c'est oui, qu'il c'est... était sous-estimé.
Mais il était sous-estimé. Et je l'ai moi aussi sous-estimé. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, la principale faute professionnelle de ma vie, c'est d'avoir laissé tomber Romain Gary, d'avoir invité dans une émission de plateau.
Avec les autres.
Avec les autres.
Comme les autres.
Il fallait lui faire une heure et quart spécialement.
Vos deux héros s'extasient à la fin du livre sur la mort splendide, hein, je vous cite, d'un de leurs copains. Ce serait quoi pour vous une mort splendide? Est-ce que ça a tant d'importance que ça?
Ah oui, non mais c'est surtout parce que je redoute. C'est la débâcle finale.
Oui.
C'est la ruine totale du corps et de l'esprit. Et donc la mort avant la mort. Ça, c'est terrible. Ça, vraiment, ça me fait peur. Ça, c'est la hantise. Plus que la mort elle-même. Ça, c'est effrayant. Mais mourir calmement pendant son sommeil, c'est le rêve. Mais vous êtes dans un fauteuil, vous lisez Giono, Colette. Vous
avez lui, c'est encore mieux. Il embrasse sa fiancée. Voilà. Votre copain.
Voilà, oui. Oui, non, je pense que là, la mort rapide, alors qu'on est encore en pleine santé, qu'on va bien, mourir en pleine santé, au fond, c'est l'idéal.
Et peut-on se faire de la mort une amie? Parce que si on n'en fait pas une amie, bien entendu, elle risque d'être notre plus terrifiante ennemie. Mais...
Oui. Moi, par exemple, je suis assez superstitieux et que toute ma vie a été ponctuée par des 5. Le narrateur, lui, c'est le 7, mais moi, c'est le 5. Je me dis, est-ce que je vais mourir un 5? Est-ce que c'est souhaitable de mourir à un 5 qui a toujours été mon chiffre, vraiment mon chiffre bénéfique préféré? Et alors j'hésite. Et parfois je me dis, moi, il ne monte pas dans un avion le 5. c'est pas bon signe. Et puis je me dis, mais non, il ne va rien t'arriver le 5 puisque c'est une date heureuse. Mais en même temps, je me dis, ça peut être une date heureuse parce que je suis devenu un vieux monsieur et que mourir deviendra quelque chose de finalement de souhaitable. Donc, comment répondre à cette question? C'est impossible.
Je ne sais pas, peut-être dans un prochain livre. Merci Bernard Pivot. Mais la vie continue avec 3 petits points devant, vient de paraître chez Albin Michel. Europe 1. C'est arrivé cette semaine et terminé. On se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, vous avez rendez-vous avec Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Sébastien?
Alors, on va parler du couvre-feu, bien sûr, généralisé partout en France ce soir. Peut-on éviter un troisième confinement? On verra ça avec les grandes voix. La passation de pouvoir sans précédent aux États-Unis aussi, on en parle. Et puis, la gauche et la droite dispersées façon puzzle. Ça sera au menu.
Bonne émission, Sébastien.